Nous en rêvons tous. Vivre une relation de couple harmonieuse et complice, où chacun trouve sa place et s'y épanouit. Mais ce rêve peut-il devenir réalité? En tout cas, c'est ce en quoi nous croyons. Et c'est ce que nous avons envie de partager avec vous dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Nous vous y livrons nos clés pour vivre au quotidien une relation vivante, équilibrée et sereine. Vous y trouverez des idées concrètes, des pistes de réflexion et d'action, mais aussi des questions à vous poser ensemble pour établir vos propres clés de longévité. Les 5 clés de l'amour durable est disponible dans toutes les bonnes librairies et bien sûr sur saveyourlovedates.fr, à vous offrir ou à offrir à ceux que vous aimez.
Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soisy Castelnérac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date.
Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre.
Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. S'aimer soi-même pour aimer et se laisser aimer. Voici le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec Marie-Yes Malbranck, fondatrice de Sésame. Marie-Yes est coach en intelligence émotionnelle et amoureuse et accompagne de nombreuses femmes et quelques hommes à construire leur bonheur affectif et amoureux. Pour Marie-Yes, comme pour nous, le couple n'est pas la fusion de deux personnes, mais bien le lien entre deux individus à part entière. Se connaître, s'aimer, se révéler fait partie de la merveilleuse aventure de la vie, que l'on soit ou non en couple. À travers cet épisode, nous souhaitons vous donner des clés et vous suggérer des exercices qui vous permettront d'avancer dans la connaissance de vous-même. Comment apprendre à s'aimer, à se connaître? Comment réussir à être pleinement soi-même dans une relation? À ces questions qui peuvent paraître parfois très philosophiques, nous avons voulu apporter des réponses concrètes et constructives. Nous espérons donc que l'écoute et la mise en pratique de cet épisode vous permettra de découvrir la personne merveilleuse que vous êtes, celle qui mérite d'aimer et d'être aimée. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui on va recevoir une experte à ce micro sur le thème « S'aimer soi-même pour aimer et se laisser aimer ». Alors peut-être que quand vous entendez ça, vous vous dites « Oh là là, mais ça, Marie-Lise et Soisy, qu'elles ont déjà parlé, pourquoi elles reviennent dessus ?» Et en fait, l'autre jour, j'en parlais avec une amie, Émilie Briand, que vous connaissez déjà peut-être puisqu'elle a créé Maison de Sens, elle est déjà venue sur ce podcast. Et on parlait de ce thème, elle me dit, tu sais, je crois que tu ne l'abordes pas assez. Moi, je lui dis, non, mais attends, en fait, je considère que c'est un acquis pour tout le monde de savoir que pour être aimé et pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et elle me dit, détrompe-toi, en fait, c'est vraiment pas du tout une notion qui est acquise, qui est acceptée, qui est comprise même. Donc, ça m'a fait un déclic, je me suis dit, ok, eh bien, on va remettre la lumière sur ce thème. Et pour ce faire, j'ai invité à mon micro Marie-Lies, qui a créé Aventure Sésame et qui propose d'accompagner les femmes dans leur construction d'un bonheur affectif et amoureux. Donc, on peut dire qu'elle est spécialiste de ce thème-là. Et donc, j'espère que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que cet épisode vous donnera vraiment des pistes pour avancer. Je pense que c'est le chemin quand même de toute une vie, hein, d'apprendre à s'aimer. Mais en tout cas, des pistes, et vous permettra peut-être de lever des barrières, de passer des obstacles pour cette belle mission. Je pense qu'on peut dire qu'on a chacun d'apprendre à s'aimer. Alors bonjour Marie-Yes. Bienvenue, je suis ravie de t'accueillir ici à notre micro. Alors, je t'ai brièvement présenté, tu le feras bien mieux que moi. Donc, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, qu'on puisse faire connaissance?
Bien sûr. Alors, donc moi, je m'appelle Marie-Liesse Malbranck. Je suis coach en intelligence émotionnelle et amoureuse. C'est un grand mot. Mais en fait, j'ai vraiment comme métier d'accompagner les femmes, mais aussi quelques hommes, qui sont célibataires ou en début de relation. Donc ça, c'est quand même mon métier principal. J'ai été aussi formée à accompagner le couple, mais aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je fais. En tout cas, le couple bien, voilà, le couple qui dure depuis de plusieurs années, ça, j'ai été aussi formée pour les accompagner. Mais moi, j'ai vraiment ce sujet d'accompagner les personnes qui sont dans l'individualité, soit célibataires, soit en début de relation, avec ce grand désir, en tout cas, c'est cette tendance, comme tu le disais, d'aller sur l'individualité, qui je suis, comment je peux être bien dans ma vie pour me laisser aimer et pour aimer la personne qui est à mes côtés. Et je pense que le sujet d'aujourd'hui va nous aider à comprendre que c'est un peu crucial, en fait, de s'aimer, même si c'est difficile.
Et je le précise dès le début, en tout cas je te pose la question pour pas qu'on perde tous nos auditeurs qui seraient en couple déjà depuis longtemps. Nous, on va parler à tous les auditeurs, donc à tous les couples et à toutes les personnes dans leur individualité, comme tu l'as bien dit. Alors moi, ma première question c'est, est-ce que c'est possible d'apprendre à s'aimer à tout âge, à tout moment de vie? Est-ce que si, tu vois, on a déjà 40, 50 ans, 60 ans, on est en couple depuis 10, 15, 20 ans, on entend ça, on se dit, ouais, ok, en fait, je pense que j'ai loupé le coche, j'aurais dû le faire bien avant. Maintenant, en fait, ça ne me concerne plus. Et tant pis, en fait, je vais faire avec.
Au contraire, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Je pense que c'est ça qui est magnifique, c'est que quand on a compris que... c'était puissant de se connaître, de savoir quels étaient nos désirs, quelles étaient nos aspirations profondes, quelles étaient aussi la manière dont on se regarde, soit extérieurement, comment on se trouve, comment on aime notre corps, comment, voilà, de manière très large. À partir du moment où on a compris que c'était un chemin qu'on pouvait prendre, qu'on avait le droit de prendre, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais, se sont jamais donné l'autorisation, en fait. Quand on a compris ça, eh ben c'est un chemin qu'on peut faire à n'importe quel âge. Moi, je sais qu'il y a des femmes qui, à 60 ans, elles sont là. En fait, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'exister pour ce que je suis. J'ai jamais osé me regarder alors que je suis en couple. J'ai énormément donné à mon mari, à mes enfants. Et en fait, je sais pas vraiment qui je suis. J'ai jamais écouté mes désirs et je me suis jamais, j'ai jamais pris soin de moi. Et bien, en fait, c'est le moment. Ben oui, 60 ans, très bien. Il n'y a pas d'âge, en fait. C'est ça qui est génial.
Et juste, je réagis parce que tu parles d'un chemin. Mais est-ce qu'il faut arriver au bout de ce chemin? C'est quand on arrive au bout de ce chemin qu'on peut se dire « oui, je m'aime » ou que, voilà, aujourd'hui, oui, je peux dire que je m'aime. Je me regarde dans la glace. Je m'aime, je me trouve belle. Je connais mes qualités, je connais mes valeurs, je connais mes forces. Mais mon chemin, je ne dois pas m'arrêter là. Mon chemin est peut-être pas fini. Mais quand on parle d'un chemin, est-ce que c'est au bout de ce chemin qu'on réussit à s'aimer ou est-ce que, en fait, vous voyez, est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Moi, je dis qu'on n'a jamais fait le tour de soi-même. Ce n'est pas possible, en fait. Et d'ailleurs, même notre conjoint, ou enfin notre femme, notre mari, n'a jamais fait le tour de lui-même ou de nous-mêmes. En fait, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de fin à ce chemin. C'est tous les jours... On découvre des choses sur nous, on découvre des choses sur l'autre. Et heureusement, parce que on n'est pas figé. Enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un de figé. Et que je sois ou non en couple, je ne serai pas figé. Enfin, voilà, il y a vraiment ce sujet de se dire, je vais évoluer, j'ai encore plein de choses à aller découvrir sur moi. Et c'est génial. C'est là où c'est un chemin. C'est vraiment, je m'étonne de moi-même et je me découvre et je n'aurai jamais fini de me découvrir. Voilà.
Je n'ai jamais fini de me découvrir, mais je peux considérer que je m'aime tout au long de ce chemin quand même.
Ah oui, oui, oui. Et justement, c'est parce que je choisis de m'aimer que je peux m'aimer dès aujourd'hui. En fait, vous pouvez aussi, vous pouvez vous aimer dès aujourd'hui. C'est aussi un choix à poser.
Alors, je pense que dans cette expression... S'aimer soi-même, je m'aime. Quand on entend quelqu'un dire, moi, quand je me mets devant la glace, je me dis, bah ouais, je m'aime. En fait, il y a un côté qui fait un peu rêver. je trouve un peu inaccessible. Non, ça, c'est pas pour moi. De toute façon, je n'y arriverai pas. Est-ce que tu peux nous donner des pistes, nous dire comment est-ce qu'on peut apprendre à s'aimer, très concrètement, apprendre à s'aimer et apprendre à se connaître?
Oui, j'ai donné quelques pistes. J'avais juste envie d'ouvrir une toute petite parenthèse avant. Quand je propose, quand on propose d'entrer dans cette réflexion d'apprendre à s'aimer, c'est pas du tout égoïste. Je le dis parce que il y en a beaucoup qui se disent oui, mais en fait, du coup, je vais regarder le nombril, je vais être hyper individuel, je vais penser qu'à moi, etc. Moi, je pense que si on apprend à nous aimer, on rayonne et on est beaucoup plus apte à rentrer dans des relations saines et belles. Donc, c'est vraiment, je m'aime pour rentrer dans un lien plus vrai et plus beau avec mon conjoint, avec les gens qui m'entourent, etc. C'est vraiment ça. Hein. C'est pas juste je m'aime pour être égoïste. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse.
Ouais, t'as bien fait d'ouvrir cette parenthèse, évidemment, parce qu'on peut paraître très égocentrique, très égocentré quand on dit ça. Et en fait, t'as raison, pas du tout. C'est juste une valeur qu'on sait s'attribuer. Mais c'est pas pour autant qu'on se pense meilleur que les autres ou au-dessus de tout le monde. Mais bonne parenthèse.
Voilà, donc du coup, l'idée de s'aimer, de t'apprendre à s'aimer, c'est vraiment pour se sentir en vie. C'est sortir de ce malaise ou de ce mal-être ou de cette comparaison dans laquelle on peut être systématiquement dès qu'on pense, dès qu'on essaie de s'aimer, parfois on n'est pas bien ou on se compare beaucoup, on se dit les autres sont mieux que nous, voilà. Donc on sort de ça et on va aller comprendre, connaître, prendre conscience de notre unicité. Je suis unique, Sozig est unique, votre conjoint est unique. Chacun est unique, donc chacun cache quelque chose de merveilleux. Et en fait, c'est vraiment ça, apprendre à s'aimer. C'est « je suis merveilleux ». Qu'est-ce que j'ai de merveilleux en moi ? J'ai des talents qui me sont propres. J'ai des émotions qui me sont propres. J'ai un corps qui m'est propre. J'ai une histoire qui fait que ce que je suis. Tout ça, ça me rend unique. Et en fait, tout ça, si je le regarde non pas comme quelque chose de douloureux, mais quelque chose de beau, avec mes forces, mes vulnérabilités, eh ben ça va me vitaliser en fait. Ça va me vitaliser parce que je vais prendre conscience que c'est ça qui va attirer et qui va me permettre d'être en relation. Alors, je vous donne des exemples. Si jamais vous êtes vous vous dites « non, moi franchement, je sais pas ce que j'ai de beau chez moi », par exemple. Je prends vraiment ce cas-là. Alors, dans ces cas-là, commencez par faire un exercice tout bête, c'est-à-dire aller demander à vos proches, à vos meilleurs amis, à votre conjoint, à vos collègues, quelles sont vos qualités. Demandez juste à ces personnes quelles sont vos qualités. Vous allez voir à quel point le retour, donc s'ils peuvent le faire par écrit, c'est génial parce que vous le gardez, et surtout, en général, il donne un vrai détail. Mais vous allez voir à quel point il y a des qualités. Vous n'êtes même pas rendu compte que c'était des qualités. Ou alors, c'est même des défauts que vous imaginez chez vous et qui sont vus par les autres comme des qualités. Donc, juste prendre conscience de ça, c'est se dire « Ok, ça, c'est mes qualités. » Et quand vous allez les recevoir, j'aimerais bien que vous les lisiez et que vous les acceptiez. Et pas que vous mettiez de côté en train de vous dire oh, « Non, mais ça, c'est pas moi. Non, mais je suis pas à l'aise avec ça. Non, mais pas du tout, etc. » C'est vraiment accepter, accueillir ses qualités. Ça, c'est vraiment un premier lieu qui va vous permettre d'apprendre à vous aimer. Le deuxième, je pense qu'il est assez beau, c'est vous pouvez lister tout ce qui vous attire. Alors, quand je vous dis « vous listez tout ce qui vous attire », c'est par exemple, c'est pas du tout le principe de la comparaison. Hein. C'est moi je suis attirée par le fait d'habiter au bord de l'eau. Moi je suis attirée par le fait d'écrire un livre. Moi je suis attirée par le fait d'apprendre à chanter, etc., etc. Plus vous allez lister ce qui vous attire, plus vous allez vous rendre compte de ce qui vous rend unique. Parce que ce que vous faites, enfin ce qui vous attire. Ça va, c'est pas pareil, encore une fois, ça attire pas votre voisin, ça attire pas votre voisine. C'est vraiment unique chez vous. Donc ça, c'est juste, faites cette liste-là. On reviendra sur cette liste après parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que vous pourriez activer ensuite. Mais déjà, faites cette liste-là. Et puis la troisième chose que j'ai envie de vous proposer, c'est regarder ce que vous savez faire facilement. Il y a des gens qui, en 2 secondes, savent organiser un repas pour 10 personnes, alors que leur voisine est incapable de recevoir chez elle plus de 2 personnes. Il y a des personnes qui vont être aux petits soins pour faire des cadeaux, avoir des super idées de cadeaux pour les anniversaires, etc. Ça, c'est tout ce que vous, potentiellement, vous savez facilement faire. Listez ça. Qu'est-ce que vous faites et que vos proches ne vous font pas? Voilà. En prenant le... Et puis si jamais vous n'arrivez pas trop à savoir, demandez à ceux qui vous entourent, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui, au-delà des qualités qu'on a vues en premier, mais là c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que aujourd'hui, dans ma manière d'agir, je fais? Pourquoi toi tu comptes sur moi? Demandez à ceux qui vous entourent. Et tout ça va déjà vous permettre de prendre conscience que ben, ça, c'est ce qui vous rend unique. Donc apprenez à regarder ce qui dans vos comportements, ce qui dans vos manières de vivre, ce qui dans ce qui vous attire vous rend unique. Voilà, donc ça c'est une première partie. Quand vous aurez fait un peu ce tour-là, je pense que vous pouvez aller chercher quel outil peut vous parler pour vous connaître. Quand je dis des outils, il y a 10 000 outils qui existent. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Ça peut être l'énéagramme, ça peut être le MBTI, ça peut être la process communication, ça peut être plein de choses qui sont des outils pour savoir qui je suis et comment je suis en lien avec les autres.
Est-ce que tu peux juste nous dire quand tu cites ces outils, parce que pour toi, c'est très naturel, c'est des choses que tu maîtrises, nous non. Par exemple, où est-ce qu'on peut les trouver très concrètement, ces outils?
Oui, pardon. En effet, moi, c'est très naturel, Donc, par exemple, l'énéagramme, c'est un outil qui propose 9 types pas de personnalité, mais 9 manières de voir le monde et d'agir dans le monde par rapport à comment on a grandi dans notre famille. Et l'énéagramme, vous avez un moyen très simple de progresser, de connaître quel est votre type énéagramme. Vous allez faire un week-end. Donc, vous allez vous taper énéagramme sur Internet. Où vous m'envoyez un mail et je vous donnerai des contacts. Et il y a des week-ends pour aller comprendre quel est mon type énéagramme. Parce que c'est pas un test qui va vous dire, ah, vous êtes tel type énéagramme. C'est vous-même qui pouvez découvrir par vos fonctionnements, par comment vous interagissez avec les gens, par la manière dont vous êtes en relation, etc. Qui vous êtes dans les 9 types. Et quand vous comprenez ça, enfin moi en tout cas le jour où je l'ai vécu. Je me suis dit, mais mince, en fait, c'est génial, je ne suis pas à part, je ne suis pas bizarre, j'ai des qualités de dingue, j'ai une manière d'agir qui est superbe, je comprends que je peux avoir peur de telle chose, etc., etc. Et ça permet beaucoup plus facilement aussi de parler de soi dans son couple à son conjoint, ça permet beaucoup plus facilement de parler de soi dans ses relations, etc. Parce que c'est notre fonctionnement. Donc ça, c'est l'énéagramme, c'est un outil. Voilà, je développe un peu plus celui-là parce que je le trouve assez riche. Mais après, il y a par exemple, le MBTI qui est un outil de personnalité. Vous tapez 16 personnalités sur Internet et vous allez trouver tout le test qui va vous permettre de savoir un peu plus qui vous êtes. Et si vous voulez faire de manière plus professionnelle, il y a des professionnels qui accompagnent sur ces sujets-là. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. La process communication, c'est encore un autre outil. Pareil, je le connais moins bien, mais je sais qu'il est très puissant. Donc, tapez process communication sur Internet. Il y a des professionnels qui vont vous aider et qui aident notamment les couples à pouvoir mieux communiquer entre eux, à pouvoir mieux savoir qui ils sont. Voilà. Et en fait, c'est très évolutif comme outil et c'est très puissant. Voilà. Donc, je vous donne ces 3-là qui, je pense, sont assez intéressants à creuser.
Bon là, c'est bien parce qu'on est vraiment au cœur du podcast où nous, ce qu'on veut toujours, c'est donner des idées concrètes à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent vraiment passer à l'action. Donc merci, merci beaucoup Marie-Liesse. Moi, j'ouvre une petite parenthèse. Quand tu disais au début de réussir à poser des mots pour se définir, savoir qui l'on est, il y a le rendez-vous numéro 2 des carnets Save Your Love Date, soit les carnets boostés, soit les carnets s'engager, qui s'appelle Qui sommes-nous et qui effectivement demande à ce que on se décrive sur ses qualités, sur ses limites, sur ses défauts, sur ses valeurs, sur ses compétences. Et j'ai très souvent des messages d'amoureux qui me disent, oh là là, je bloque, en fait. C'est difficile pour moi de me mettre en mots. Et j'ai dit, mais accrochez-vous. Justement, si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler. Donc, allez-y, prenez le temps qu'il faut, mais essayez vraiment de mettre des mots sur qui vous êtes. Et puis, je leur dis aussi, si vraiment vous bloquez, il y a des choses qui vous viennent pas naturellement, attendez le rendez-vous et vous allez voir que c'est l'autre. Vous allez voir les mots que l'autre met sur vous. Parce qu'en fait, cet exercice, on le fait pour soi et on le fait aussi pour l'autre. Et là, c'est vraiment des moments qui sont hyper intenses. Parce que même si on a réussi d'ailleurs à poser des mots sur soi, entendre la façon dont l'autre nous perçoit, nous voit et même nous aime, c'est quelque chose qui est très fort. Donc oui, ça peut être difficile, ça peut paraître compliqué, mais en tout cas, si on fait cet exercice, si on se donne le temps, ce n'est jamais pour rien.
C'est vrai que moi, assez régulièrement, je fais faire des exercices dans mes coachings, des exercices vraiment sur ces sujets pour aider chaque personne à gagner en estime d'elle-même et à comprendre, prendre conscience de sa valeur. Et ces exercices sont longs, demandent un vrai travail d'introspection. Et à chaque fois, c'est douloureux, quoi. C'est mais j'y arrive pas, mais Marie-Liesse, ça me prend trop de temps, mais je sais pas quoi dire, etc. Et je dis, mais rédigez des phrases, il faut que ce soit long. Prenez le temps, vraiment, bloquez-vous une heure, mettez une musique dans vos oreilles et écrivez sans réfléchir tout ce qui vous vient par l'esprit, tout ce qui vous vient passe par la tête. Et là, à chaque fois, j'ai des personnes qui se disent « Waouh, ça a été dur, mais qu'est-ce que c'est chouette au final !» Et puis surtout, moi, derrière, je les aide avec tout ce travail qui a été fait à parler d'elles. Et en fait, c'est dingue parce que quand on arrive à parler de soi, qu'on soit célibataire ou en couple, en fait, du coup, on ouvre un champ énorme dans le lien. Et c'est vraiment là que j'essaye de vous amener, en fait.
Et ce que je trouve chouette, c'est que pour soi et à l'intérieur de son couple, c'est en fait une discussion qu'on peut avoir tellement régulièrement, un exercice qu'on peut refaire tellement souvent parce qu'en fait, on va pas avoir les mêmes réponses aujourd'hui, le 28 mars, et c'est sûr que le 15 août, je vais pas répondre la même chose. Donc c'est ça qui est chouette, c'est de réussir à se dire bah, régulièrement, en fait, on se repose ces questions pour soi-même et puis on vient les partager avec l'autre parce que ça permet de rester aussi au fait de qui est l'autre, de qui il devient, de comment il avance. Et est-ce que maintenant tu peux nous dire, on reste sur le même thème, mais on va un peu plus loin, comment est-ce que dans une relation de couple, on peut réussir à être pleinement soi-même, à être fidèle en fait à qui l'on est, sans se laisser modeler par ce que l'autre aimerait que l'on soit?
Ouais, alors ça c'est un grand sujet qui peut toucher tous les couples, à toutes les phases de la relation. De se dire « Waouh, l'autre attend de moi que je sois comme si, et donc du coup, potentiellement, je vais me cacher ou je vais m'adapter. » Et qu'on soit en début de relation ou en relation depuis très longtemps, il y a vraiment ce sujet, un moment de se dire « Ok, si jamais je m'adapte à l'autre pour plaire, eh bien, l'autre ne va pas m'aimer, moi, pour ce que je suis. » Et l'idée là, c'est vraiment de se dire « Moi, j'ai un grand désir pour vous, c'est que vous soyez aimé pour ce que vous êtes. » J'ai envie que vous soyez aimé par votre conjoint, par votre mari, par votre femme, pour ce que vous êtes. Si jamais vous vous adaptez pour lui plaire, eh ben, il y a toute une partie de vous auquel l'autre n'a pas accès. Quel dommage. Donc, vraiment, l'idée aujourd'hui, ça va être d'essayer d'arrêter de s'adapter et de poser des choix. Je vous donne un exemple. Vous êtes face à votre mari qui vous dit « Cet après-midi, on pourrait faire du kite ou une promenade. Qu'est-ce que tu as envie ?» Vous, potentiellement, dans votre tête, vous allez vous dire oh, « bah franchement, pour lui faire plaisir, je sais qu'il aimerait trop faire du kite, mais alors moi, j'ai pas du tout envie de faire de kite. J'ai vraiment envie d'aller me promener. » Mais souvent, pour uniquement plaire à l'autre et seulement dans cette perspective-là, on peut avoir tendance à s'oublier. Alors, je dis pas que parfois, ça peut être bon hein, pour, dans un dialogue, d'aller vers le désir de l'autre, mais moi, je veux pas que vous le fassiez si vous vous oubliez. Vous pourriez répondre, bah, moi, je crois que je préférerais vraiment aller me promener parce que c'est vraiment mon désir. En revanche, toi, je sais que ça fait longtemps que tu veux faire du kite. Peut-être que aujourd'hui, ben, ça sera le moment où toi, tu as besoin d'aller en faire. Et là, il y a une discussion qui va se faire. Mais vous avez posé un choix. Vous avez établi quel est votre désir? Vous n'êtes pas adapté juste dans votre tête pour faire plaisir. Vous avez posé votre unicité, vous avez raconté qui vous étiez et vous rentrez dans ce lien. C'est vraiment ça en fait, c'est je ne vais pas m'adapter, je vais verbaliser ce qui se passe en moi, non pas pour tenter de plaire, mais bien pour raconter mes désirs. Et à force de poser un choix, d'exprimer mes désirs et donc mes besoins, mon conjoint, il va savoir qui je suis, ce que je veux, et à deux, on va créer notre entité couple, en fait. Mais chacun reste individuel, un individu à part entière, et à deux, on crée notre relation. Voilà, il y a vraiment ce sujet-là pour être pleinement soi dans une relation.
Ouais, et t'as raison quand tu dis le fait d'exprimer ce que l'on a aimé, ça permet aussi à l'autre de le savoir. On a tendance parfois à penser que l'autre aurait dû comprendre que nous, en fait, aller le voir faire du kite ou le laisser y aller tout seul et faire son après-midi de notre côté, en fait, c'est pas ça qu'on voulait. Il aurait dû le savoir, il aurait dû le comprendre. Non, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Donc, d'exprimer, effectivement. Et puis, peut-être que la prochaine fois, quand la question se posera, il se dira, bon, bah, la dernière fois, elle a accepté qu'on fasse pas cette balade pour que je puisse aller au kite où elle m'a accompagnée. Et ben cette fois-ci, en fait, ben c'est à moi d'aller dans ce que elle aimerait aujourd'hui. Mais vraiment, toujours, comme tu le dis, pouvoir exprimer ce que l'on aimerait. Évidemment, tout se passe pas toujours comme on veut, et il faut savoir aussi aller accompagner l'autre. Je trouve dans ses désirs, dans ses loisirs, dans. Et moi, justement, j'ai Arnaud est kiteur, et là, ça faisait quelque temps que j'étais pas allée le voir faire du kite. Et puis chanter, tu vois que ça lui manquait un peu et qu'il me proposait à chaque fois d'y aller. Et donc la dernière fois j'y suis allée et j'ai senti vraiment le bonheur que c'était pour lui, tu vois, que je l'accompagne, que je le regarde dans son. Et c'est important aussi des fois de savoir de pas écouter juste ce qu'on veut soi, de pouvoir le verbaliser comme tu dis, mais de se dire ok, l'autre là en fait il m'attend, il a envie de faire ça avec moi. Donc ce soit pas toujours que dans un sens, mais c'est je pense que c'est aussi essentiel pour la relation de couple.
Mais c'est aussi parce que là, dans cet exemple, Arnaud, il a pu te montrer qu'il avait envie, il avait besoin, il était dans le désir que tu viennes le voir, en fait, que tu sois là. Et donc, du coup, c'est son unicité qui s'est, c'est là que ça s'est, qui s'est affirmé aussi, je pense. Tu vois?
Oui, t'as raison. Il aurait accepté le fait d'ailleurs que je ne vienne pas. Hein. Il y serait allé, puis il m'aurait pas fait de réflexion, il m'en aurait pas tenu rigueur. Mais dans la façon dont il me le proposait, j'ai senti que effectivement il avait ça lui faisait plaisir que je l'accompagne. Donc évidemment quand on ressent ça, quand on se sent attendu et désiré, on a d'autant plus envie d'y aller, ça c'est sûr. Et est-ce que tu aurais un autre exemple à nous donner ou un autre exercice qu'on pourrait faire pour réussir à être pleinement soi-même dans sa relation, je sais pas, l'idée d'une situation qui arrive régulièrement où on est en difficulté, on sait pas forcément comment agir.
Tout à l'heure, je vous donnais un peu des moyens de creuser là, vos qualités, ce qui vous attire dans la vie, ce que vous faites facilement. Sur la liste que je vous proposais vraiment, je vous proposais de faire une liste de tout ce qui pouvait vous attirer. Je crois qu'un moyen de réussir à être pleinement vous-même dans une relation, c'est aussi de vous dire, voilà, aujourd'hui, je suis attirée par le fait d'apprendre à chanter. Donc, je vais en parler à mon partenaire. Je vais lui dire, ben voilà, en fait, moi, j'ai envie d'apprendre à chanter. Et vous allez entendre la manière dont l'autre, il va vous écouter, vous soutenir, vous encourager, vous accompagner dans ce processus-là de, ok, ça, c'est ce qui m'attire, c'est ce qui me rend unique. L'autre a vraiment cette écoute de et cette envie de me faire grandir, de me faire progresser dans mon unicité, et il va même peut-être à force de me pousser à aller vers ce qui m'attire, il va même devenir fier de moi en fait. Il y a vraiment ce en fait ça m'attire, le chant ça m'attire, ça m'a toujours fait peur, j'ai jamais osé y aller, mais je sais qu'à un moment j'ai envie d'y aller, je le verbalise à mon partenaire, à mon conjoint, et là et eh ben il va potentiellement vous aider à y arriver, et puis plus vous allez y arriver, plus vous allez mettre des choses en place, plus lui il va aussi voir que vous avancez, vous grandissez, vous êtes plus épanoui, et donc il va aussi être de plus en plus fier de vous, il va avoir envie davantage de vous encourager à continuer à déployer ces talents-là, parce que c'est des talents en fait que vous avez, et là vous allez être de plus en plus vous dans la relation parce que vous allez raconter à l'autre ce qui vous attire, et l'autre va être là pour vous encourager. Voilà, je crois que ça, c'est un exemple tout bête de « je suis attirée par quelque chose et j'y vais, en fait ». Voilà, c'était un peu un petit exercice, un petit complément d'exercice pour comment être pleinement moi-même dans une relation.
Moi, ce à quoi ça me fait penser, quand tu parles de cet exercice, c'est la façon dont l'autre peut être un allié dans cette connaissance de nous-mêmes et dans notre propre épanouissement. Si on lui donne les clés, comme là par exemple lui dire « bon ben voilà, j'ai toujours voulu chanter mais j'hésite », si l'autre nous accompagne là-dedans, nous soutient, nous encourage, nous pousse, ben je me dis que c'est ça aussi, en fait, un couple. C'est d'aider l'autre à s'épanouir, à se connaître, lui donner des pistes. Et ça fait aussi la force d'un couple. Évidemment, on le dit, d'arriver dans son couple sur un début de relation de façon sereine, en ayant déjà, si possible, acquis ce don de s'aimer, de se connaître. Mais il n'empêche que le couple va encore nous permettre d'approfondir ça. Et l'autre peut vraiment, je pense, devenir notre allié là-dedans. Et ça fait vraiment la force du couple et ça le rend vraiment unique. Et se dire que ce binôme que l'on est, cette équipe qu'on est, eh ben, elle est unique pour ça. Parce qu'en fait, personne d'autre que moi ne te connaîtra mieux et n'aura cette meilleure place pour t'aider à te connaître. J'aimerais qu'on fasse un petit focus pour terminer sur le début de relation, puisque c'est quand même une de tes spécialités. On sait que ça peut être difficile d'être pleinement soi-même sur un début de relation. Pourquoi ? Parce que quand on a targeté quelqu'un à qui l'on veut plaire, on va évidemment avoir tendance à vouloir tout faire pour attirer son attention. Peut-être qu'on va avoir tendance à s'inventer un peu une vie, à se montrer sous un jour qui nous ressemble pas vraiment. Vraiment, on donne tout pour attirer l'attention, pour se dire, allez, pour l'attraper dans nos filets, se dire, celui-là, je le veux, donc je vais en fait me faire un peu à son image. Pour attirer son attention, ce qui évidemment n'est pas très bon, n'est pas conseillé. Est-ce que tu peux nous donner des pistes pour aider, tu vois, les jeunes couples qui nous écoutent, les aider à être eux-mêmes, même en début de relation?
C'est vrai que c'est un gros sujet parce que dans le début de relation, on est souvent en train d'essayer de plaire. En tout cas, on fait tout pour plaire à ce qu'on imagine qu'il va plaire à l'autre, parce qu'en fait on ne sait pas du tout ce qui lui plaît, et on s'adapte, on a une stratégie d'adaptation qui fait qu'on ne se montre pas tel qu'on est. Or, on va être aimé pour ce qu'on est, clairement, sinon ça va pas marcher. Donc si on n'y va pas dès le début, c'est un peu dommage. Mais un début de relation, c'est compliqué, parce qu'on a des émotions dans tous les sens, c'est les montagnes russes, on est souvent face à l'inconnu, on peut idéaliser une part de l'autre. Il y a un moment où il y a des phases de désillusion, où on va voir tout ce qu'on n'aime pas chez l'autre, etc. Et je crois qu'il y a vraiment ce sujet de « parce que je suis en début de relation, je vais accepter plusieurs choses ». La première, c'est « je vais accepter de nommer mes émotions, de parler de mes émotions, de dire que j'ai peur, que je suis mal à l'aise, que je suis gênée ». J'aime bien dire que la gêne est constitutive de la séduction. Aujourd'hui, on imagine que dès qu'on est gêné, il faut partir et c'est pas du tout une bonne chose. Donc du coup, il y a plein de couples qui ne se retrouvent pas, de personnes qui ne se retrouvent pas, parce que dès qu'il y a une part de gêne, ils partent. Alors qu'en fait, on est gêné, on rougit, on perd ses mots. C'est là où tout se joue, c'est magnifique, on est complètement nous-mêmes, on n'a rien à cacher, on est hyper pur en fait. Et donc du coup, ben oui, c'est difficile d'aller raconter ses émotions, c'est difficile d'aller parler de soi, mais en même temps, c'est justement parce qu'on y va vraiment en racontant qui on est d'une manière entière, pas juste avec nos forces, mais aussi avec notre histoire, notre vécu, ce qu'on a pu vivre de difficile, mais aussi de joyeux. Voilà, c'est vraiment, je parle de mes émotions et je parle de qui je suis. Il y a aussi le fait d'accepter le temps. Chacun a un tempo, l'autre a un tempo, nous avons un tempo. Et dans un début de relation, parfois, on veut aller plus vite que la musique. On veut déjà, au bout de quelques mois ou semaines de relation, être comme un couple qui est ensemble depuis 10 ans. Bah, ça marche pas, en fait. C'est les montagnes russes. On est en train de construire. J'aime bien dire, on est en train d'apprendre à danser ensemble. Et pour apprendre à danser ensemble, on est obligé de dire à l'autre qui on est. On est obligé de raconter ce qu'on vit à l'intérieur, ce qui est difficile. Voilà, c'est vraiment essayer de pas aller trop rapidement. Et puis, j'aime bien dire, souvent quand on débute une relation, dans cette phase d'idéalisation, on peut aussi avoir tendance à vouloir cocher des cases. Je veux que l'autre soit comme ci, comme ça, etc. Ou alors tendance à projeter trop loin, etc. Non, vraiment rester sur ce tempo lent. C'est le fait d'aller lentement, de prendre le temps de se dire les choses, de se raconter, de faire des choses ensemble qui pourra nous amener derrière à nous engager davantage d'une manière ou d'une autre et qui nous sera propre. Mais il y a vraiment parce que j'accepte de découvrir qui est l'autre et de me livrer à l'autre dans mes émotions, dans mes failles, etc., que je vais pouvoir aimer et être aimée et montrer qui je suis vraiment. Mais si jamais, dès que j'ai une émotion un peu trop forte, je me dis non, là, il faut surtout pas que je me montre et donc je fuis, et ben du coup, on n'y va pas, en fait. Dès qu'on a une peur, moi, j'aime bien dire, il y a 4 réactions face à une peur, soit de fuir, soit de se mettre en colère, soit de se paralyser, soit de passer à l'action. Et ben moi, j'ai envie, quand vous êtes face à une peur dans un début de relation, passez à l'action. Allez raconter à l'autre ce que vous vivez et vous allez voir si l'autre vous accueille pour ce que vous êtes, mais il va encore plus vous aimer en fait. C'est ça qui est génial, parce qu'il vous aimera pour ce que vous êtes. Voilà, je crois que c'est ça un peu. Comment vivre sereinement ou plus sereinement un début de relation qui, pour le coup, est vraiment souvent plein d'états émotionnels dans tous les sens. Et j'ai envie de dire, c'est normal.
Merci Marilia, c'est vraiment passionnant. Moi, j'aimerais pour finir juste suggérer un exercice au couple et qui va venir en fait un peu en aboutissement de ce que tu as déjà proposé dans l'épisode. C'est sur une soirée, donc on se donne rendez-vous, et pendant 8 minutes chacun, en fait, on dit qui l'on est, on dit à l'autre qui l'on est. Donc c'est vraiment un monologue, c'est chronomètre en main, c'est 8 minutes et pas une de plus. L'autre n'intervient pas, n'interrompt pas, il est juste dans l'écoute, et pendant 8 minutes, on se décrit. L'exercice n'est pas simple, parfois c'est un peu difficile de démarrer, puis en fait, on se rend compte que quand on y est, on y va. C'est que limite, on ne le prépare pas. On peut se l'être dit avant, mais on ne prend pas des notes, on n'écrit rien. On a, si on veut réfléchir, mais essayer de, justement, d'avoir de la spontanéité et de laisser les mots venir là comme on les a maintenant. Donc, on commence par le faire. Soit on choisit d'avoir un échange tout de suite sur ce qu'on vient de dire. Et bien souvent, l'autre, il est souvent très étonné par les mots qu'on a posés. Soit c'est au tour de l'autre et après on choisit de tout débriefer en même temps. Donc l'un après l'autre cet exercice, 8 minutes. Vous allez voir, c'est ultra simple, hein. Franchement c'est à la portée de tout le monde, mais c'est d'une efficacité incroyable et ça va faire 16 minutes à vous deux, mais derrière vous en avez pour des heures de discussion. Et je pense qu'une fois qu'on a fait les exercices que tu nous as proposés pour se connaître soi-même, des exercices plus individuels, et ben c'est chouette de pouvoir en faire quelque chose au sein de son couple. Alors Marie-Liès, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut t'écouter aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te contacter?
Oui, alors moi donc j'ai un blog et un podcast. Donc mon podcast, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Il s'appelle L'Aventure Sésame et mon blog c'est aventure-sésame.fr. Voilà, sur ce blog il y a mon site internet aussi où il y a toutes mes propositions d'accompagnement qui sont faites. Et je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Si on veut te laisser un message après cet épisode, le plus facile là où tu réponds le plus facilement, Instagram. Un mail ?
Ouais, soit sur Instagram, soit un mail.
Ok, bon, de toute façon, on vous remettra évidemment tous les liens sous les notes de l'épisode. Un grand merci à toi, Marie-Liès. Je pense que tu nous as ouvert des portes sur ce chemin, on l'a dit, qui est la connaissance de soi-même, mêlée aussi, nous, dans le couple, évidemment, à la connaissance de l'autre et, sur l'aboutissement, la connaissance de son couple. Donc, un grand merci à toi. On espère vraiment que cet épisode vous a plu, que ce sujet vous intéresse, vous touche. N'hésitez pas à le partager autour de vous, notamment, pourquoi pas, aux jeunes couples que vous connaissez, qui sont en construction et à qui ça pourrait donner des vraies pistes. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, je vous le dis à chaque fois, mais venez nous mettre des étoiles, des petits avis sur Apple Podcasts pour nous aider à avancer encore plus vite. Mille merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
L'amour, l'amour, pas l'amour dont on parle toujours. L'amour, mais la nuit un bonnet et le jour porte un masque.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple.
Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.